Solidarité et justice climatique, table ronde animée par Marie Cosnet, avec Damien Carême, Mariama Diallo, Manuel Domergue et Cédric Héroux.
Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, on va commencer parce qu'on est déjà un peu en retard par rapport à ce qui était prévu. Notre table ronde, c'est la solidarité et la justice climatique. Avant de présenter nos invités, de leur poser les questions que nous nous posons, juste une anecdote. Cet été, nous aidions un jeune homme venu de Guinée-Conakry, mineur isolé en France, à trouver son extrait d'acte de naissance à Conakry. Et pour cela, nous étions en contact avec son grand frère, très jeune lui aussi, qui venait de finir ses études de management à Conakry et qui était au chômage. Nous discutions. C'était la saison des pluies à Conakry, c'était la canicule ici. Et je dis au jeune homme, tu sais, c'est la canicule, et j'évoque rapidement le réchauffement climatique et ce qui nous attend. Et il se désole sincèrement pour moi, et il se désole sincèrement pour nous, et il dit, oh, mais si votre climat est si mauvais, je suis désolée, ici c'est frais, c'est bon, et vous serez toujours la bienvenue. Alors peut-être un jour, oui, nous serons obligés de quitter nos pays, et peut-être irons-nous en Guinée, pour fuir les conséquences du changement climatique, qui sait si nous y serons bienvenus. Mariama Diallo, bonjour. Vous êtes anthropologue et diplômée de l'EHESS. Vous êtes membre du collectif Alternativa Dakar, créé en octobre 2015. Alternativa Dakar a initié des rencontres mensuelles, populaires, et un festival des alternatives en 2016. Vous êtes convaincu de l'existence de solutions pour faire face au changement climatique et de la possibilité qu'un large public se les approprie. Et vous êtes marraine du festival Alternativa 2018. Alors comment s'y prendre pour mobiliser sur ces questions d'écologie et surtout comment relier les problématiques socio-économiques urgentes et les questions environnementales qui le sont tout autant mais dont l'urgence peut-être nous apparaît moins? Et comment initier une dynamique de justice climatique dans un pays du Sud qui n'a pas la responsabilité historique de la dette écologique? Et ensuite, comment apprendre à s'adapter aux conséquences inévitables du changement climatique? Ça fait beaucoup de questions, mais... Et vous avez 15 minutes.
Bonjour à tous. Alors, quand on parle de solidarité climatique et de justice climatique, je pense qu'il est important d'abord de situer les faits. Pourquoi aujourd'hui on ressent en tout cas ce besoin-là de parler de solidarité climatique ou de justice climatique? Il faut d'abord savoir que quand on parle de justice climatique, les pays industrialisés ont une responsabilité historique concernant notamment les changements climatiques. En gros, les pays industrialisés, on le sait bien, émettent beaucoup plus de CO2 que les pays pauvres et jusqu'à présent, on est sur cette même tendance. Cette tendance-là, des décennies après, elle n'a pas changé, elle reste la même. Juste pour vous donner un ordre d'idée, en 2015, l'Afrique subsaharienne émettait environ 2,6% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, là où l'Amérique du Nord émettait 17,2% ou 9,6% pour l'Union européenne et 47,6% pour l'Asie. Sachant que pour l'Asie, c'est un cas particulier puisque la Chine, à elle seule, est à près de 30% d'émissions. Donc, en somme, les pays industrialisés sont responsables de près de 85% des concentrations de gaz à effet de serre. Mais paradoxalement, ce sont les pays du Sud qui sont les plus impactés par les conséquences des changements climatiques. Elles vivent ces conséquences-là au quotidien. Justement, on en a beaucoup parlé hier, de l'érosion côtière, de la dégradation des sols, de la salinité des eaux, qui fait qu'aujourd'hui, les changements climatiques posent à la fois une question de survie et posent à la fois des problèmes de sécurité alimentaire. C'est-à-dire, ces gens-là, les questions qui se posent aujourd'hui, c'est est-ce qu'on a les moyens de manger tous les jours correctement? Ça se comprend puisque ce sont des pays qui vivent à côté des écosystèmes. Je prends le pays d'où je viens, le Sénégal, qui est un pays sahélien et côtier, qui justement aussi a une économie qui dépend largement de ces écosystèmes-là, l'agriculture, la pêche, le tourisme, etc. Donc c'est des économies qui restent dépendantes de ces écosystèmes-là. Donc la responsabilité des pays du Nord, elle est là, elle est réelle hein, dans le calvaire que vivent les habitants des pays du Sud, même si à l'ONU, on préfère parler de responsabilité commune et différenciée, commune parce que tous les pays émettent bien entendu des gaz à effet de serre, mais que les pays industrialisés en émettent beaucoup plus que le reste. Aujourd'hui, les pays du Sud se mobilisent pour réclamer notamment une justice climatique. Hein. Les populations, parfois, on a du mal à les mobiliser sur ces questions-là, puisque quand vous vivez des problématiques économiques réelles, c'est difficile d'avoir du temps pour les questions environnementales. C'est dommage, il y a une construction sociale, une tradition qui tend souvent à séparer les problématiques environnementales de celles socio-économiques, alors qu'en réalité, elles sont imbriquées les unes les autres. Et donc, par exemple, nous, ce qu'on fait à Alternative à Dakar, avec d'autres organisations communautaires de base, c'est justement de partir de ces problèmes socio-économiques-là de ces populations, sachant que le pêcheur aujourd'hui qui vit à Saint-Louis ou qui vit en Casamance, il n'est pas insensible à ces questions environnementales-là. Il sait qu'aujourd'hui, s'il n'arrive plus à avoir le même stock de poissons, en tout cas la même pêche ou les mêmes revenus issus de la pêche, c'est bien parce qu'il y a une baisse de stock des ressources halieutiques, dans la mer. Aujourd'hui, on a souvent tendance à penser que les populations qui cherchent à s'adapter n'ont pas forcément des solutions. Non, les solutions, elles existent. Elles existent de partout. Et aujourd'hui, ces populations-là, elles vivent ces solutions, elles les pratiquent au quotidien. Elles ont toujours été là. Je prends tout simplement l'exemple de l'agriculture. Aujourd'hui, on utilise énormément de pesticides, d'engrais, de produits chimiques. Or que ces engrais-là, ces produits chimiques-là, dans les pays du Sud, pour la plupart qui ont été colonisés, ces engrais-là sont rentrés dans ces pays-là avec la colonisation. C'est-à-dire qu'avant, il y avait tout un système d'utilisation d'engrais naturels qui faisait que les gens arrivaient à fertiliser leur sol avec de la pousse de vache ou du compost, tout simplement. Donc, les alternatives, elles sont là. Les solutions, elles sont là. Mais le gros problème, c'est que les dégâts sont tels que investir dans les alternatives ou lutter au niveau local ne suffisent plus, tout simplement, face à l'ampleur des dégâts qu'ont causé les changements climatiques dans ces pays-là. Donc, de ce fait, ils sont en train de payer doublement les dégâts causés par les pays industrialisés, à la fois parce qu'ils vivent les conséquences des changements climatiques, mais qu'ils n'arrivent pas tout simplement à avoir les moyens pour s'adapter. En 2009, il y a eu un fonds qui a été mis en place par les pays industrialisés, justement pour venir en appui à ces pays du Sud-là, qui souffrent des conséquences des changements climatiques. C'est le fonds Climat Vert. On était parti sur un scénario où il fallait mobiliser 100 milliards de dollars par an d'ici 2020, bien entendu à partir de la signature de l'accord. Et concrètement, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a les pays du Nord, en tout cas, un rapport très très ambigu par rapport à la justice climatique et par rapport à ce fonds climatique-là, puisque jusque-là, 3,7 milliards tout simplement ont été débloqués de ce fonds pour aller aider les pays du Sud à s'adapter concrètement. Ils n'arrivent toujours pas à être alimentés. C'est d'autant plus compliqué avec le retrait des États-Unis, notamment de l'accord de Paris. Et au-delà de ça, il y a une très grande réticence, dont on parle très peu, des pays du Nord à financer justement ce fonds climat-là, pour deux raisons. Parce que pour beaucoup de pays, il y a un problème de gouvernance, beaucoup de pays industrialisés bien entendu, un problème de gouvernance au niveau de ce fonds-là. En tout cas, la manière dont est gouverné ce fonds-là ne les convient pas. Par exemple, au conseil d'administration du Fonds vert, vous avez 12 représentants issus des pays du Nord et 12 représentants issus des pays du Sud. Donc on est vraiment dans l'équité, c'est pas pareil qu'à la Banque mondiale ou FMI, où tout simplement ce sont les pays du Nord qui ont la manette. Donc, dans ce sens-là, les décisions au Fonds vert doivent être prises par consensus. Et aujourd'hui, beaucoup de pays du Nord ne veulent pas, en fait, de ce mécanisme-là, veulent en tout cas que le modèle de gouvernance de ce Fonds vert-là soit revu, soit révisé. La deuxième chose, c'est que les pays du Nord préfèrent tout simplement le financement de l'atténuation. Enfin, il faut le dire, ils préfèrent financer l'atténuation plutôt que de financer l'adaptation. Parce qu'économiquement, c'est plus rentable et ça fait également l'affaire de certaines multinationales. Parce qu'on peut financer une... dire, allez, on va financer une campagne de reboisement, c'est légal. Et cette campagne-là, elle est financée par une multinationale. Derrière, cette multinationale-là, elle va profiter d'un quota de carbone, ou en tout cas, elle va être vue comme une entreprise qui œuvre pour l'environnement. Alors que, au contraire, pour moi, c'est un achat en fait, d'endroits à polluer. Ça légitimise encore une fois la dégradation de l'environnement, l'émission des gaz à effet de serre par les multinationales. Au niveau national également, il faut savoir que les mécanismes de captation de ces fonds-là et de mise en œuvre sont extrêmement lourds. C'est des grosses machines. Et de ce fait, seuls les États ou de grosses organisations internationales qui travaillent sur les questions environnementales et qui ont justement des représentations dans les pays du Sud, qui arrivent à capter ces fonds-là au détriment, bien entendu, des populations locales qui, elles, portent des alternatives, qui, elles, souffrent également des conséquences des changements climatiques. Aujourd'hui, le plaidoyer que l'on porte, en tout cas au niveau d'Alternativa, on en a travaillé également avec d'autres organisations comme le CSR, qui est le plus grand syndicat des ruraux au Sénégal, on plaide en faveur d'une décentralisation du fonds climat qui irait directement au niveau des populations impactées, qui seront plus à même de gérer ce fonds-là, parce qu'il faut le dire, quand l'argent est débloqué entre le fonds jusqu'à l'arrivée au niveau des projets, il y a tout un circuit, il y a énormément de corruption, il y a énormément de malversations, et à la fin, c'est les populations qui continuent toujours à en pâtir. Mais on est confiant, on espère en tout cas qu'un jour, cette décentralisation-là du fonds climatique sera réelle, et on se bat justement pour ça. Je vous remercie.
Merci, Madame Karen. Vous êtes membre d'Europe Écologie Les Verts depuis 2015. Vous êtes maire de Grand-Synthe depuis 2020. Vous menez une politique sociale et écologique remarquée et remarquable. En 2015, à Grand-Synthe, arrive un grand nombre de personnes en demande de refuge. Avec Médecins Sans Frontières, vous décidez de les accueillir dignement dans un camp humanitaire doté de sanitaires et sans aide de l'État. Et j'ajoute que fin septembre 2018, tout récemment, vous êtes signataire d'une charte des villes accueillantes, que vous appelez le plus grand nombre de maires et d'élus à rejoindre. Vous rappelez à l'État ses obligations, vous annoncez que vous, maire de Grand-Synthe et maire de deux arrondissements de Lyon, de Nantes, de Grenoble et d'autres, vous annoncez que chacun, chacune dans votre territoire, avec les conditions singulières de ce territoire, vous ferez preuve d'hospitalité. Alors, comment penser la transition écologique dans une commune dont les préoccupations sont à l'urgence sociale? Ça, c'est une première question. En quoi l'écologie peut être une réponse à la précarité? Et ensuite, notre axe peut-être de questionnement, quel lien faites-vous entre vos engagements socio-écologiques et ce qui vous a amené à accueillir un des premiers, ce qu'on appelle les réfugiés, pour le dire très, très largement, dans votre commune, qui n'est pas la commune la plus riche qui soit? Comment conciliez-vous tout ce à quoi vous êtes attaché?
Merci et bonjour à toutes et tous. On n'a pas signé qu'une charte le 26 septembre dernier. On a aussi créé l'Association nationale des villes et territoires accueillants, où effectivement je souhaite rassembler beaucoup de villes en fait, qui accueillent en France. Et tout se passe bien, donc je voudrais qu'on raconte une autre histoire autour de l'accueil que celle qu'on a l'habitude de voir dans les médias. Et je pense qu'on va réunir quelques centaines de villes d'ici peu pour faire un peu pression sur le gouvernement, mais aussi, puisque j'ai rencontré le maire d'une association similaire en Italie qui existe, qui regroupe 300 communes, qu'il y en a une autre qui est en cours de constitution en Belgique et une autre en Allemagne, donc on aura aussi au niveau européen cet attachement-là, et je pense que ça va... Voilà, vraiment ce qu'on veut, c'est raconter une autre histoire autour de ça, mais c'est pas qu'une histoire, c'est aussi des actes. Moi, je ne me satisfais pas uniquement de signer une charte et puis de créer une association. Il faut qu'il y ait des actes concrets. Et je suis avec mon voisin en aparté il y a quelques secondes parce que j'ai dans ma ville voulu dénommer une place Abbé Pierre Et quand vous voulez, en tant qu'élu, dénommer une place, il faut l'autorisation pour utiliser le nom. Et j'ai donc demandé l'autorisation d'utiliser Abbé Pierre. Et c'est la Fondation Abbé Pierre qui est détentrice du nom et donc de la possibilité de faire. Et en fait, avant de m'autoriser, ils ont fait une enquête sociale sur la ville pour voir un peu quelle était la politique sociale de la commune. Et donc j'ai une convention avec la Fondation Abbé Pierre qui vous autorise ou non, en fonction de votre politique sociale, à utiliser le nom. Et qui, si jamais vous changez, eh ben, vous retire le droit d'utilisation. Et je trouve que c'est extraordinaire, ça, parce que ça permet d'avoir un contrôle. Et moi, je veux la même chose sur l'association des villes et territoires accueillants. C'est pour ça que je demandais confirmation à côté. Comment penser la transition écologique dans une ville où, effectivement, il y a une urgence sociale? L'urgence, chez moi, c'est 28% de chômage, c'est 33% des foyers qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est un revenu annuel médian de 10 000 euros. Donc effectivement, la préoccupation des gens, c'est plus de savoir ce qu'ils vont donner à manger à leurs enfants le lendemain que le développement durable, que la ville en transition, que les problèmes qui nous concernent ici tous sur notre avenir commun. Ils sont dans l'urgence, effectivement, sociale. Comment ? Parce que je pense que, après bien des recherches, tu l'as dit, je suis maire depuis 2001, pendant longtemps, j'ai cherché à savoir comment aider au mieux ces populations-là, et je pense que la réponse écologique est la seule qui puisse être. Parce qu'elle est très transversale, parce qu'elle touche tous les domaines de la vie, parce qu'elle elle maintient en dignité et elle assure un avenir commun à toutes ces personnes, nous compris, dans une collectivité. Et donc, en fait, je me suis. L'engagement que j'ai pris en 2014, lors des dernières élections, c'est d'assurer. Pas du boulot aux gens, parce que ça, un maire ne peut pas promettre du boulot, c'est impossible. Il y a une telle concurrence à l'échelle d'une intercommunalité, des régions, des départements, des pays européens, que les entreprises, elles font leur choix de là où elles veulent aller. C'est pas vous qui, en déroulant un tapis rouge, les attire. Elles vont au plus offrant, mais aussi ce qui convient le mieux pour elles. Donc c'est illusoire et populiste de faire ce genre de promesses. Ce que j'ai promis, moi, c'est que j'assurais un logement, j'assurais une alimentation de qualité, j'assurais un accès à l'énergie, un accès à la santé, un accès à l'éducation, un accès à la culture. C'est les choses pour lesquelles l'élu peut se battre et peut mettre à disposition un certain nombre de choses s'il a un peu de courage et de volonté de sortir de ce qui se faisait traditionnellement. Donc en fait, je leur assure un logement, des logements à base de basse consommation, en renouvellement urbain, et tout ce qu'on sort comme logement depuis maintenant 2008 sont des bâtiments à basse consommation, voire les derniers des bâtiments passifs. Et ce qui fait qu'en fait, le côté environnemental, vous déduisez, comme on ne consomme pas beaucoup d'énergie, c'est bon pour l'environnement et la planète, mais c'est aussi bon pour le porte-monnaie des habitants, puisque la facture énergétique est complètement réduite, et donc ça leur rend du pouvoir d'achat à toutes ces personnes. Et pour les personnes qui ont leur maison, on a mis en place un système d'aide à la rénovation énergétique. C'est vrai pour à la communauté urbaine de Dunkerque, où cette aide existe, et qu'on a doublé, nous, à l'échelle de la commune, pour faire encore plus levier auprès d'une population qui a encore pas beaucoup de moyens en moyenne par rapport à ceux de l'agglomération. Dans l'alimentation, on est passé au 100% bio dans les cantines scolaires. Moi, les gens ont une responsabilité énorme. Ils confient leurs enfants pour leur donner à manger, et moi, je ne veux pas les empoisonner. Et la loi qui dit qu'on donne 20% de bio, si on reconnaît ça, ça veut dire que le bio est quand même meilleur que le conventionnel. Donc je ne vois pas pourquoi 20% et puis qu'à 80% on peut les empoisonner. Donc je me suis dit, il faut qu'on les donne à 80%. Mais c'est un vrai débat. Je dis comme ça, c'est un vrai débat de faux cul, quoi. Mais à partir du moment où on reconnaît qu'on aille jusqu'au bout de la logique, pourquoi ça ? Puis moi, je ne voudrais pas qu'un jour on me dise « vous saviez, puis vous n'aviez pas fait », donc au moins de ce côté-là, je l'ai fait. C'est aussi des jardins partagés en pied d'immeuble, et on accompagne. Alors moi, je n'utilise pas dans ma vie, je ne dis pas produits phytosanitaires, parce que ça fait classe, ça fait presque soin phytosanitaire, donc des pesticides, des herbicides, des mauvais produits, on ne les utilise plus depuis 1995, et complètement les deux seuls endroits qui résistaient, c'est les cimetières et les terrains de foot. Les cimetières, parce que les gens ne supportent pas d'avoir des mauvaises herbes dans un cimetière, enfin mauvaises herbes. Même si les habitants, ils s'en foutent un peu. Et la deuxième, c'est les terrains de foot, et là aussi, un footballeur n'est pas les pâquerettes dans la pelouse, alors qu'il se roule souvent dedans, je pense que c'est plus amené. Donc voilà, et on a trouvé les moyens de s'en passer complètement depuis 2008 maintenant, donc on est vraiment sans utilisation de ces produits toxiques sur nos espaces publics, et on accompagne les habitants pour qu'aussi les jardins partagés se fassent bien évidemment sans utilisation de ces produits. Donc il y a toute une action qui est en place. On en est aujourd'hui à 7 jardins, enfin des jardins en pied d'immeuble, 7 lieux en fait, Et aujourd'hui, les habitants, quand ils font des demandes de mutation dans le logement social, ils demandent des résidences dans lesquelles il y a des jardins partagés en pied d'immeuble. Moi, je pensais qu'au départ, c'était pareil, je leur permettais de pourvoir à leur alimentation en partie par ces jardins-là. C'est vrai, mais en fait, l'autre côté, c'est que ça fait un lien social assez extraordinaire dans la ville. Donc là, c'est aussi écologie et lien social. On voit que c'est extrêmement important. Sur la précarité énergétique, je vous parlais des logements, bien évidemment, on baisse les consommations énergétiques, mais on a encore des gens qui vivent dans des logements, des passoires thermiques. Moi, je n'ai aucune coupure énergétique pour des raisons sociales depuis 2001. Je n'ai pas pris un arrêté parce que ça n'a pas de portée juridique. Et puis, il y a des gens qui font des choix de partir en vacances ou de payer autre chose que de payer leur facture énergétique. Donc, à chaque fois qu'on est en lien avec tous les fournisseurs d'énergie, eau, gaz, électricité, pour savoir, on rentre en contact avec les personnes quand il y a une dette. Et quand c'est pour des raisons sociales, que la famille elle préfère donner à manger à ses gosses plutôt que de payer sa facture de gaz, eh bien on intervient, on met l'énergéticien autour de la table, la personne et nous, l'énergéticien prend une partie de la dette à sa charge, nous on prend une partie de la dette, et la personne rentre dans un plan d'apurement. Alors on lisse ça dans le temps, ils peuvent rembourser 5 euros par mois pendant X années, mais au moins comme la puissance publique est là, l'énergéticien suit derrière, c'est une garantie, et ce qui permet de le maintenir. C'est plus bête, mais l'intérêt de ça, c'est que ça nous permet de détecter des situations sociales difficiles. Et donc, au moment où on vient sur cette facture, du coup, on met un accompagnement de la famille derrière. Et ce que me disent les services sociaux, que généralement, c'est que les personnes, quand elles viennent une fois là, ne reviennent plus. C'est-à-dire on leur distribue aussi des kits d'ampoules à basse consommation, des mousseurs d'eau, des choses comme ça. Donc, on accompagne la famille, puis surtout, on accompagne dans l'insertion professionnelle si on doit le faire, etc. C'est vrai aussi pour les loyers. Il n'y a aucune expulsion locative depuis 2001 pour des raisons sociales. Il peut y avoir des expulsions locatives pour des raisons comportementales. Moi, les gens qui polluent l'entrée d'HLM, ils doivent partir parce que ce n'est pas la règle de société de bien vivre. Mais si c'est pour des raisons économiques, on fait la même chose avec les bailleurs sociaux. On se met autour de la table, on prend une partie de la dette, le bailleur social prend une partie. Et les gens se mettent dans un apurement de cette dette. Sur la santé, on a mis en place une mutuelle santé, un achat groupé en fait. C'est pas la ville qui paye une mutuelle et qui joue le rôle mutualiste. En fait, on a organisé un achat groupé et on a mis en concurrence les mutuelles en leur disant il y a 9000 personnes qui sont susceptibles de vous prendre votre mutuelle. Mais elles ne vont pas prendre n'importe quelle mutuelle. Une dame de 75 ans, 80 ans, elle n'a pas besoin de frais d'obstétrique. Par contre, elle aura besoin d'appareils auditifs, d'appareils dentaires, des yeux, etc. Donc en fait, c'est des mutuelles à la carte. On a demandé que ces personnes, enfin que les mutuelles qui nous répondent fassent des mutuelles adaptées aux personnes qui en face. Et puis on a déclenché, parce que ça c'est pas très connu, la Sécu a un dispositif qui s'appelle l'aide complémentaire santé, mais qui ne fait pas beaucoup de pub et qui vient, en fonction de vos revenus, vous aider à souscrire une mutuelle. Et ça peut aller jusqu'à 540 euros par an, donc c'est pas négligeable cette aide qui est derrière. Mais en fait, personne ne connaissait le dispositif, moi en tout cas, je l'ignorais complètement. Et donc en faisant ce travail, on a mis la Sécu avec nous, et du coup quand on reçoit les personnes, on a réussi à faire baisser les mutuelles, le coût de la mutuelle, en l'adaptant et en faisant de l'achat groupé. Et on a déclenché ces mécanismes-là, ce qui fait que région très industrielle que la mienne, donc l'agglomération dunkerquoise, donc très peu d'emplois féminins, avec des hommes qui meurent, enfin qui ont une espérance de vie de 5 ans inférieure à la moyenne nationale. Donc je m'en trouve beaucoup avec des dames veuves qui ne vivent qu'avec une pension de reversion de leur mari, grosso modo 800 euros par mois. Donc quand vous vivez avec 800 euros par mois, vous payez votre loyer, vos charges, de l'alimentation. Et si vous n'avez pas assez de sous, une des choses que vous sacrifiez en premier, c'est la mutuelle. Et du coup, après, vous tombez dans une spirale un peu compliquée d'enfermement. Donc ça a permis à peu près 800 personnes de sortir de cette difficulté-là et d'accéder aux mutuelles aujourd'hui. Alors ça ne nous a pas coûté un rond. Nous, on a mis simplement une personne qui a géré tout le dispositif et puis qui a accédé, qui a mis en œuvre une solution pour que ces gens accèdent à la santé. Je ne vais pas faire l'ensemble, mais à chaque fois, c'est une réponse. Sur la santé, c'est un peu différent, même si en faisant du bio dans les cantines scolaires et dans les jardins partagés, on évite que les gens tombent malades, c'est quand même le meilleur moyen de se soigner, c'est d'éviter d'être malade. On a mis en place, on s'est déclaré ville sans perturbateurs endocriniens, donc on élimine tous les perturbateurs endocriniens, on accompagne la population dans l'université populaire, à la fabrique de l'autonomie, où les gens font leurs produits d'entretien, leurs cosmétiques à base de produits naturels. Là aussi, donc ils ne tombent pas malades, c'est bon pour la planète, et un litre de lessive fait comme ça, c'est 70 centimes au lieu de 3, 4 ou 5 euros le litre de lessive. Donc c'est du pouvoir d'achat courant, donc comment on répond à la précarité sociale en se soignant. Donc on allie à chaque fois l'ensemble de ces préoccupations environnementales et sociales dans notre action publique. Alors comment, quel lien je fais entre mes engagements, la social-écologie et l'accueil des demandeurs de refuge? C'est dans la droite ligne. Parce que l'université populaire qui fait la fabrique de l'autonomie, elle fait aussi plein de débats pour un peu l'alternative à tous les mois où on a des conférenciers qui viennent parler d'autres choses, d'autres solutions et des thématiques. Moi j'aime beaucoup, alors c'est ceux peut-être qui sont sur la fiche là-bas, la sobriété, la lutte contre la consommation, les énergies renouvelables. Donc on a comme ça des cycles de conférences et on fait vraiment de l'éducation populaire pour essayer de sortir la population du système de l'embrigadement dans lequel on est au quotidien, de leur faire réfléchir à autre chose, et surtout de voir que notre système de développement, les fameuses 30 glorieuses, que, suivant un ouvrage qui a été écrit il y a quelques années par je ne sais plus qui, appelé les 30 piteuses, mais finalement c'est vraiment le résultat de ce modèle de développement qui fait qu'on a tous ces problèmes de santé, environnementaux, sociaux, démocratiques aujourd'hui, et les réfugiés, c'est le même problème, c'est la même conséquence de ces errements qu'on a eus, d'aller jouer avec des dictateurs dans certains coins du monde pour obtenir leur pétrole à bon marché, pour aller piller les sous-sols africains et donc les rendre plus pauvres que pauvres ailleurs, et ben ces gens-là, ils viennent pour des raisons économiques, politiques, terroristes ou autres, peu importe, l'origine est la même. Et donc, je l'ai amené comme ça auprès de la population, on a fait de l'éducation, ce qui fait que c'est bien passé auprès de la population. C'est dans cette même logique, dans cette même cohérence d'action politique qu'on fait derrière. Et quand vous me posez la question de comment concilier tout ce à quoi je suis attaché, je suis maire. Et c'est un vrai projet.
Manuel Domer, vous avez été, c'est plus le cas aujourd'hui, le porte-parole du collectif des Val-Logis Jeudi Noir. Moi, je me souviens de l'occupation en 2010 d'un hôtel particulier de la place des Vosges. Vous êtes journaliste à Alternative Économique.
J'étais.
Vous étiez. Vous êtes toujours l'auteur d'un livre, Cameroun, une guerre cachée aux origines de la France en Afrique, il n'y a pas si longtemps.
Tout à fait.
Et enfin, vous êtes directeur des études à la Fondation Abbé Pierre. Du coup, qu'appelle-t-on précarité énergétique et d'une manière concrète, quelles sont les solutions que vous proposez d'apporter à cette précarité énergétique, ici et maintenant?
Merci, bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, ce n'était pas forcément évident d'inviter la Fondation Abbé Pierre, qui est spécialisée sur les questions de logement et de mal-logement, à des rencontres sur le climat, sur l'écologie, parce que ce n'est pas notre cœur de métier. Mais en fait, un peu comme tout le monde, un peu comme des maires du Nord, on est amené à s'intéresser à ces questions, un peu contraints et forcés, si on veut bien faire notre travail. Pourquoi ? Parce que l'abbé Pierre, effectivement, n'était pas spécialement un écolo, quoi. C'était pas un militant écolo, on l'a jamais vu sur une ZAD ou quoi que ce soit, mais il était quand même, avec le mouvement Emmaüs, dans une démarche de réinsertion des personnes, sans passer forcément par l'intégration au marché du travail, au productivisme, etc. Les communautés Emmaüs, les compagnons, c'est plutôt retaper des vieux objets pour, par la même occasion, retaper des personnes qui ont été aussi accidentées, cabossées dans leur vie. Donc c'est pas... Il y avait déjà un petit terreau favorable. Mais après, nous, ce qui nous amène au quotidien à travailler sur les questions de transition écologique, c'est la précarité énergétique. Parce que là, c'est du mal logement. Les gens qui ont froid chez eux, qui n'arrivent pas à payer leurs factures, ou qui se ruinent pour les payer, et qui tombent malades à cause de ça, là, on est à la fois sur le mal logement et à la fois sur des questions purement écologiques, sur comment rénover les passoires énergétiques. Et donc nous, c'est un thème qui nous a bousculé, mais qui a bousculé et en fait, qui a émergé dans la société en général. La précarité énergétique, il y a 15 ans, personne n'en parlait, le mot n'existait pas. Donc c'est déjà une première victoire d'avoir nommé ça et de l'avoir quantifié. Il y a 12 millions de personnes qui souffrent de la précarité énergétique en France, et c'est un nombre en augmentation. Donc c'est pas une sorte de résidu du passé et que l'amélioration des conditions de construction, des conditions de chauffage pourrait venir résorber un peu naturellement. C'est pas vrai. Par exemple, quand vous demandez aux gens « est-ce que vous avez eu froid dans l'année ?», En 96, ils étaient 11% à dire oui. Aujourd'hui, ils sont 19%, quasiment deux fois plus. Donc on voit que c'est un fléau qui augmente. Donc c'est à la fois la prise de conscience, parce qu'avoir froid, c'est hyper subjectif. Quoi. Nos grands-parents avaient son beaucoup plus froid que nous, mais ne se pensaient peut-être pas en précarité énergétique, ne serait-ce que parce que le terme n'existait pas. Donc c'est subjectif, mais c'est bien, c'est utile de sentir qu'on a froid et de sentir que c'est pas normal. Parce que la précarité énergétique, le froid, ça a des répercussions objectives sur les gens. C'est pas simplement du confort d'enfants gâtés, de civilisations riches comme les nôtres. Ça a des vrais effets quand on a froid. Il y a une étude économique qui a montré que toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire à condition sociale, familiale équivalente, le fait d'être dans un logement difficile à chauffer augmente de 50% votre risque d'être en mauvaise santé. 50%. Donc c'est un déterminant social de mauvaise santé qui est totalement déterminant, mais dont on parle assez rarement dans le débat sur la santé. Et nous, on a fait des études plus fines en comparant des logements avant et après l'innovation énergétique, et on s'est aperçu qu'il y avait un doublement, parfois un triplement de certaines pathologies quand on était dans des passoires énergétiques par rapport à des logements rénovés. Et c'est même des pathologies souvent psychologiques, la dépression, l'anxiété pour les adultes, qui est beaucoup plus forte quand on est dans un logement qui est difficile à chauffer, qu'on se recroqueville sur soi-même, qu'on a froid chez soi, qu'on perd confiance en soi parce qu'on n'est pas bien dans l'endroit absolument vital, intime, qu'on retrouve tous les soirs ou tous les matins, ou parfois qu'on ne quitte pas de la journée pour certains. Ça a des conséquences très graves pour les enfants aussi. Les bronchiolites, les sifflements respiratoires, etc., etc., qui, quand ça arrive une fois, ben, c'est pas très grave, tous ceux qui ont des enfants ont connu ça, mais quand ça arrive tous les mois à répétition, ça abîme le corps, ça abîme la confiance en soi, la santé psychologique des enfants, des tout-petits-enfants, et ça les suit toute leur vie. Donc c'est pour ça qu'il y a une urgence sanitaire, sociale, à agir contre les passoires énergétiques. On estime qu'il y a 7 millions de passoires énergétiques en France aujourd'hui, dans le parc privé, simplement, hein. Donc 7 millions, c'est beaucoup sur un parc de 28 millions de résidences principales. C'est à peu près un quart. Donc c'est un chantier qui est devant nous. Et c'est un chantier qui est mobilisateur, qui est intéressant, qui est enthousiasmant, parce que ça va résoudre des problèmes des gens, ça fait de l'activité, et ça va surtout baisser l'empreinte climatique, l'empreinte énergétique, la facture énergétique de la France. Donc là, il y a des choses intéressantes à faire. Et c'est pour ça qu'on se mobilise au sein d'une coalition qui s'appelle l'initiative Rénovons, qu'on a créée il y a 2 ans, qui n'est pas forcément très connue, ça commence, mais qui, à la Fondation Aviaire, on a voulu rassembler plein de gens qui ne nous ressemblent pas. Des syndicalistes, il y a la CFDT, par exemple, et d'autres syndicats qui sont présents, des entreprises qui font de la rénovation énergétique, et qui le font pour des raisons de business, hein, ils sont peut-être écolos par ailleurs, mais eux, leur but, c'est d'avoir un chiffre d'affaires. Ça rassemble des associations écolos comme la FNH, la Fondation pour la Nature et l'Homme, le CLER, etc., des associations plus sociales et des collectivités. Donc on essaie d'avancer ensemble sur ce sujet-là pour rendre la transition énergétique écologique désirable pour les personnes, notamment pour les personnes qui ont plus de difficultés. Et ça, c'est sans doute un des moyens les plus simples. Il y en a plein, déjà, de partager, etc. Mais vraiment, la qualité de vie chez soi, voilà, si on arrive à gagner ça, on aura montré que la transition écologique, elle est profitable, même pour ceux qui sont plus en difficulté. Et c'est au nom de cet impératif de lancer la transition, de faire tous ces chantiers-là de rénovation, qu'on a soutenu quelque chose qui, a priori, n'est pas très social, qui est la fiscalité écologique, la taxe carbone. Vous savez, il y a eu beaucoup de débats en France pour la lancer. Elle a finalement été lancée en 2014, un peu en catimini parce que ça avait fait tellement de bruit, etc., que le gouvernement l'a lancée à des niveaux assez bas lors du précédent quinquennat, avec l'idée très juste qu'elle monte en puissance petit à petit, chaque année. Et aujourd'hui, elle commence à se faire sentir parce que le prix de la tonne de carbone, que l'on paye tous, hein, quand on vous paye l'essence, le chauffage, etc., augmente. Voilà. Et d'ici à 2022, elle va encore doubler. Donc on est aujourd'hui face un peu à la croisée des chemins, parce que cette fiscalité carbone, elle est utile parce qu'elle envoie un signal prix en disant si vous ne faites pas les travaux de rénovation énergétique, si vous ne changez pas votre mode de consommation, votre mode de production, vous allez payer plus cher plus tard. Et donc commencez aujourd'hui à changer. Mais ça, c'est facile à dire. Les effets concrets aujourd'hui de cette taxe, en termes purement monétaires, c'est que les pauvres sont les perdants de cette taxe. C'est clair, c'est évident, c'est un impôt proportionnel. Donc quand vous êtes pauvre, les 10% les plus pauvres, ils vont payer, d'ici à 2022, en plus par rapport à aujourd'hui, 300 euros par an de taxes carbone. C'est beaucoup, 300 euros par an, quand on est un ménage pauvre. Les plus riches vont payer un peu plus, parce qu'ils consomment plus de produits polluants, hein, c'est pas une surprise, mais c'est 500 euros pour les 10% les plus riches. Donc c'est, en termes de reste à vivre, de ce que ça coûte réellement pour les gens, 500 euros par an pour des ménages les plus riches, c'est quasiment rien, c'est 0,5% de la pouvoir d'achat, alors que 300 euros pour les plus pauvres, c'est vraiment fondamental. Et donc, pourquoi je dis qu'on a la croisée des chemins, c'est que cette fiscalité énergétique, si elle ne montre pas, si elle ne prouve pas qu'elle est utile, qu'elle permet aussi de redistribuer, elle est vouée à l'échec. On va toucher en 2019 3 milliards de recettes fiscales en plus grâce à ça, par rapport à 2018. À quoi vont servir ces 3 milliards d'euros? Personne aujourd'hui est capable de le dire. Par contre, des mauvais esprits, des esprits chagrins, comme moi, pourraient dire, c'est marrant, c'est le coût de la suppression de l'ISF, par exemple. Donc, si ça, on pourrait dire deux choses, hein, mais si c'est vu comme ça, et c'est un peu vrai quand même, parce que c'est 3 milliards sur 3 milliards, voilà, si ça sert à ça, in fine, mais non, les gens vont se révolter contre cette taxe carbone. Et donc, elle ne lui donne pas cher de l'avenir de cette taxe carbone, alors qu'elle est utile, parce que la fiscalité énergétique, tous les écolos sont pour et ont compris depuis des années que c'était utile comme signal prix. Mais ça ne sert pas seulement à ça, ça sert aussi à redistribuer et à financer des investissements publics dans la transition énergétique. Donc, est-ce que ça va servir à ça? Le gouvernement, il dit, oui, il y a des choses qui sont prévues, et évidemment, il y a des choses qui existent. Hein. Il y a le chèque énergie, par exemple. Le chèque énergie, ça vous aide, un peu comme étaient les tarifs sociaux d'énergie auparavant, à payer votre facture de gaz, d'électricité, si besoin, quand vous êtes sous des conditions de revenus. Bon, très bien, ça va passer à 200 euros par an l'an prochain. Bon. La facture énergétique pour se chauffer, c'est 1800 euros par an en moyenne. Donc ça, c'est mieux que rien, mais on est très très loin pour des personnes qui ont du mal à se chauffer et qui se privent volontairement. Pour rappel, entre 2006 et 2013, le nombre de gens dans les enquêtes de l'INSEE qui disent « j'ai eu froid l'an dernier parce que volontairement je ne me suis pas chauffé par peur de ne pas pouvoir payer les factures », ça a augmenté de 44%. 44%, donc ça c'est l'effet de la crise économique et aussi l'effet de la hausse des prix de l'énergie. Donc on voit qu'il y a un besoin d'accompagner les gens pour polluer. Parce que, évidemment, le chèque énergie, ce n'est pas une mesure de transition énergétique au sens de sobriété. Il faut aider les gens à se chauffer. Et se chauffer quand on est pauvre, souvent c'est de mettre du fuel, c'est de mettre du gaz, etc. Mais c'est une nécessité pour que les gens puissent avoir pas trop froid chez eux. Et une nécessité qui n'est pas suffisante aujourd'hui. 200 euros, c'est pas suffisant. Parce qu'en plus, c'est à peu près le même montant qu'avec les tarifs sociaux de l'énergie qui ont été remplacés. Donc ça ne change pas grand-chose. Il n'y a quasiment rien de plus pour aider les pauvres à se faire chauffer, tout simplement. Donc on pense qu'il faudrait le tripler, arriver à 600 euros, c'est la somme qui permet aux personnes les plus modestes de se chauffer correctement. Bon. Mais après, c'est une mesure palliative, on est d'accord. Je dis c'est une aide à polluer. Ben oui, mais c'est une aide à se chauffer. Mais on ne peut pas se satisfaire de ça. Il faut qu'en parallèle, ce chèque énergie aide au moment de la transition, mais que surtout, on mette le paquet sur la transition énergétique. La transition énergétique, c'est rénover, c'est 7 millions de passoires thermiques. Bon, est-ce qu'on le fait? Ben, il y a des aides, hein, vous le savez peut-être, le crédit d'impôt, l'éco-PTZ, etc., etc. Mais, grosso modo, il n'y en a pas plus aujourd'hui qu'il y a 3 ans, qu'il y a 4 ans, qu'il y a 5 ans. Et donc le grand plan de Nicolas Hulot et de Jacques Mézard, ministre du Logement, ministre de la Transition énergétique, qu'ils ont lancé il y a quelques mois, en fait ne change quasiment rien en termes d'ambition, en termes de pognon, pour aider à la transition énergétique. Et donc on n'est pas du tout à la hauteur. Et leurs annonces sont vraiment fallacieuses. Enfin, Macron, quand il a été élu, a dit, en 10 ans, on va résorber les passoires énergétiques, 7 millions de passoires énergétiques, en mettant la même somme d'argent. Donc c'est plus qu'avant, où on en fait peut-être 100 000 ou 200 000 rénovations par an. Donc si on continue à ce rythme-là, en 2100, on y est encore. Donc là, on n'a pas du tout passé l'échelle. Et pour passer à l'échelle, cette fiscalité carbone pourrait être utile pour mettre le paquet, pour financer ce grand chantier. Et nous, on a fait une étude avec un bureau d'études assez sérieux, etc., qui nous a montré que pour rénover les 7 millions de passoires énergétiques, c'est un chantier sur 10 ans qui coûterait 80 milliards d'euros. Alors ça peut paraître incroyable, ça peut paraître énorme, l'investissement, moitié public, moitié privé. Parce que quand vous rénovez chez vous, vous mettez un peu d'argent, puis vous avez des aides de l'État. Donc voilà, c'est un peu moitié-moitié. 80 milliards, c'est le chantier de l'ANRU, par exemple, qu'ils ont fait en 10 ans, l'ANRU, la rénovation urbaine, des cités, etc. Bah, qui était un chantier utile, qui n'est pas suffisant, mais qui était utile. Donc pourquoi on ne ferait pas la même chose sur la rénovation énergétique? Et on a montré combien ça coûte, 80 milliards d'euros, donc 40 milliards de dépenses publiques, donc on a besoin de dépenses publiques, hein, pour inciter aussi les gens à mettre leur épargne là où il faut. Mais ça rapporte aussi beaucoup. Et en fait, on s'est aperçu qu'en 25 ans, ça rapporte. Ça coûte moins d'argent que ce que ça rapporte à l'État en termes de recettes fiscales, parce que rénover les 7 millions de passoires énergétiques, c'est 126 000 emplois à temps plein, tous les ans, tout le temps, donc c'est beaucoup de recettes fiscales. C'est des dépenses en moins, parce que rénover 7 millions de passoires énergétiques, c'est 1 milliard de dépenses de soins en moins, parce que les gens vont mieux, voilà, ils sont moins malades. Donc ça, voilà, rien que ça, ça finance ces investissements publics. Donc ça, c'est important. Et puis potentiellement, c'est assez consensuel quand même. On baisse d'un milliard d'euros chaque année la facture énergétique de la France, on améliore la santé des Français, ça fait de l'activité, etc., etc. Donc ça, ça devrait être consensuel, ça devrait marcher. Mais il faut accepter de payer cette taxe carbone et qu'elle soit réorientée là où c'est nécessaire, de ne pas attendre le ruissellement que les riches investissent dans la rénovation des passoires énergétiques. Ça, c'est, vous avez déjà vu un riche investir dans la rénovation de passoires énergétiques? Ben non, c'est pas possible. Il n'y a même pas de lien logique, hein, c'est pas, donc c'est pas possible. Donc il faut investir bien les ressources qu'on a. Et c'est pas simplement de l'investissement et du consensus, il y a aussi une partie quand même affrontement, il y a une partie clivage, notamment sur, et en particulier sur les locataires du parc privé. Les locataires du parc privé, vous savez, c'est les plus pauvres de la population, et c'est les plus touchés par la précarité énergétique. Et leur dire, le chauffage va coûter de plus en plus cher à cause de la taxe carbone, eux, ça leur fait rien, parce que c'est pas eux qui décident, qui lancent des travaux de rénovation. Ils sont pas chez eux, ils sont locataires. C'est leurs bailleurs. Mais leurs bailleurs n'ont aucun intérêt à faire cette transition, à faire des travaux coûteux pour améliorer le confort des locataires et baisser la facture énergétique que les bailleurs ne payent pas. Donc il faut une obligation. Donc on a une campagne en ce moment, on a attaqué l'État en justice pour dire vous devez obliger, peut-être pas tout de suite parce que ça peut prendre du temps que les gens s'adaptent, mais d'ici 5 ans, que les passoires énergétiques qui ont des diagnostics en F et en G, qui sont les pires, hein, les bailleurs doivent rénover. Ils auront peut-être des aides, ils auront peut-être des délais, mais ils devront le faire parce que sinon c'est un logement indécent. Donc ça, il faut que les gens qui habitent dans des passoires énergétiques aient le sentiment que c'est indécent, que ce n'est pas normal et que ce n'est pas de leur faute. C'est la faute du bailleur quand ils sont locataires. Et que le bailleur doit agir. Il y a un livre qui est sorti récemment qui s'appelait « La nature est un champ de bataille ». L'écologie, ce n'est pas simplement des trucs consensuels. Il y a aussi des trucs consensuels. Et on voit que le maire peut gagner des élections sur un programme écolo. Mais il y a aussi parfois, il y a des inégalités très fortes, des inégalités de pouvoir. Et donc il faut redonner du pouvoir aux gens qui sont en bas de l'échelle et qui subissent sans avoir les moyens d'agir. Et leur dire que vous pouvez attaquer votre bailleur en justice si vous êtes dans une passion énergétique, c'est de donner un pouvoir fabuleux pour obtenir des remises de quittance et obtenir cette rénovation in fine. Donc c'est comme ça qu'on peut montrer que la rénovation énergétique, que la taxe carbone, elle est utile, elle est désirable. Il faut passer en gros d'une fiscalité qui soit acceptable, acceptée, à une fiscalité qui soit soutenue, qui soit populaire. Et les gens disent c'est grâce à ça qu'on a trouvé les moyens pour aider les territoires, aider les entreprises, aider les consommateurs à faire leur rénovation énergétique. Et c'est un peu, je trouve, le message de ce festival Alternativa, de dire on s'ennuie pas, quoi. C'est pas un truc chiant, on fait la morale aux gens, c'est un truc où on s'amuse, où il y a de la musique, et où on avance concrètement vers des solutions positives qui créent des emplois, qui améliorent la vie des gens. Voilà.
Cédric, tu es paysan, tu produis de l'huile d'olive dans la région de Breil-sur-Royat. Et je ne sais pas si tu le dirais comme ça, mais autour de l'année 2015, ta vie a changé.
2016.
Tu habites un lieu de passage et tu as tout fait pour que soit respecté le droit des gens à passer pour demander l'asile en France ou à passer pour aller le demander plus loin. Tu as été arrêté plusieurs fois. Cela a permis que se pose dans le débat public les questions d'humanité et de fraternité. Et début juillet, le Conseil constitutionnel, répondant à la condamnation de 4 mois de prison avec sursis, a consacré contre le délit de solidarité le principe de fraternité. Alors, les deux questions cardinales de notre temps sont la question climatique et celle qui y est tellement liée, on l'a dit, qui est celle des déplacements présents et à venir. Et moi, je t'ai entendu dire, entre beaucoup d'autres choses, que si tu faisais ce que tu fais, c'est que tu as été élevé comme ça. Et je trouve que ce que tu dis là, des générations précédentes et des valeurs qui nous ont été transmises, est crucial, parce qu'à notre tour, que transmettre à ceux qui nous suivent en matière d'humanité, d'hospitalité, en matière de respect de la Terre, la seule que nous avons et que nous partageons. Alors moi, je n'ai pas vraiment de questions. Cédric, c'est qu'est-ce qui t'oblige ?
Au début, quand j'étais invité dans cette table ronde, je me disais pourquoi il m'invite, je vois pas trop le rapport. Je sais pas où. Bon, mais. Pourquoi faire ça ? Pourquoi faire ça ? Déjà, comment j'ai cherché comment y arriver. Au sujet des alternatives écologiques, des alternatives de vie et d'engagement politique personnel, et pourquoi pas collectif, populaire, voilà. Qu'est-ce qui m'a permis d'agir comme je l'ai agi? Qu'est-ce qui m'a permis d'accueillir plus de 2500 personnes? Qu'est-ce qui me permet en fait de prendre du temps pour agir? Et qu'est-ce qui me permet en fait de mettre en péril une dynamique économique professionnelle? Et voilà. Je pense qu'il y a une cohésion dans. Bon, je Tu as bien répété deux minutes, peut-être que c'est prétentieux de le dire. Il y a une cohésion sur ma façon de vivre, je pense. C'est que donc, je suis agriculteur depuis 2006, en agriculture biologique, l'agrémentation Nature et Progrès. Et je n'ai pas de clients, ce n'est pas des clients, c'est, en fait, c'est des partenaires financiers, c'est des personnes qui comprennent comment je travaille, c'est des personnes et qui savent que des fois, il n'y a plus d'huile d'olive, c'est fini, ou alors que là, les poules ne comptent plus, il n'y en a plus, etc. Et de risquer en fait, d'arrêter un nombre de production sans racheter ailleurs, sans revendre aux mêmes clients, c'est un risque toujours de perdre le client. Et avec les personnes avec qui je travaille, il y a un lien assez fort sur ma façon de produire et de compréhension du consommateur avec le producteur. Et ça c'est important. Ma façon de vivre aussi, ça a été travailler sur l'autoconstruction, apprendre à travailler au lieu de travailler pour embaucher quelqu'un, pourquoi pas, tant mieux pour l'embauche, quoi. Moi j'ai préféré en fait économiser de l'argent, parce que de toute façon j'en avais pas, et c'était facile. Et donc du coup j'ai fait pas mal d'autoconstructions, des autoconstructions qui étaient pas chères, donc du coup qui sont alternatives, avec de la récupération. Donc j'ai fait un agrandissement sur ma maison en ossature bois et construction paille par exemple. J'avais jamais eu ça, j'ai appris sur YouTube. Et j'ai beaucoup appris de choses comme ça. C'est qu'à un moment je pense que l'alternative elle est aussi basée sur une position personnelle politique. Non pas pour faire l'exemplarité ou quoi que ce soit, c'est juste pour être cohérent face à soi, je pense. Et c'est pas intéressant ce que je dis. Moi j'ai appris à faire sans pas grand chose, et souvent on stigmatise la pauvreté, dire que c'est un échec social, etc. Moi ma pauvreté, c'est ma richesse. Et vraiment très dans la Vallée de la Roya, en fait, ce qui m'a inspiré, c'est les gens dans la Vallée de la Roya qui sont arrivés dans les années 70. Il y a pas mal de gens qui sont arrivés et qui ont commencé à faire du maraîchage à 900 mètres d'altitude. Donc la chambre d'agriculture, il y avait les cheveux qui posaient sur la tête en disant « ils sont complètement fous, ceux-là ». On a repris mon exploitation, c'est une exploitation qui était abandonnée depuis avant-guerre. Quand j'ai repris ce terrain, ils ont dit « mais il est complètement taré, celui-là ». Et on a montré en fait que ça marchait. Donc ça a un peu vexé les locaux, parce qu'il y a beaucoup de néo-ruraux qui ont repris les terres pour en faire... j'allais dire un métier, mais c'est plus qu'un métier, c'est une façon de vie, je pense. Et ça les a un peu vexés parce qu'eux ont abandonné toutes ces campagnes pendant la guerre et après-guerre. Beaucoup de jeunes sont allés à la ville pour travailler. Et l'olivier, en fait, c'est l'arbre qui te fait mourir de faim. En fait, c'est le yoga nisso, en fait. Hein, c'est apprendre à rester zen, quelles que soient les circonstances. Et c'est vrai que c'est assez difficile d'en vivre. Mais on a montré avec des alternatives de façon de travailler. En agriculture biologique, a montré en fait que c'était possible. Et il y a une redynamisation de la vallée de la Roya depuis les années 70. Tous ces jeunes qui sont arrivés, ces gens un peu babos, hippies, qui sont arrivés, donc il y a pas mal de jeunes de mon âge qui ont repris les exploitations agricoles, surtout aussi qui ont repris tout ce qui était espace public avec l'organisation de fêtes, d'événements et d'associations, donc d'associations, ce qui veut dire éducation populaire, c'est se rassembler autour de sujets importants, de réflexion. Et quand on s'est retrouvé en 2015 avec cette décision à Paris qui dit la Vallée de la Roya, en fait, parce que la Vallée de la Roya, je ne sais pas si vous le savez, mais le haut est française et le bas est italien, et on a un territoire qui est franco-italien. Donc on va souvent à Matimi, en Italie, et voilà. Et les Italiens passent dans notre vallée pour accéder de la Ligurie, donc par la mer, au Piémont, côté de Col de Tende, et la Roya. Donc voilà, on est habitué à vivre comme ça. Et donc à Paris, décide de contrôler les frontières. C'était pendant la COP21, c'est juste avant. Contre la lutte contre le terrorisme. Et on s'est retrouvé avec des gens complètement bloqués. Et c'est pour ça que nous, on n'est pas militants écologiques, on n'est pas militants quoi que ce soit. On fait une vie ensemble dans notre vallée, on peut reculer, et puis voilà. Et du coup, on n'est pas militant pro-migrant du tout à la base, quoi. C'est que c'est juste qu'on se retrouve avec des gens dans notre vallée, et vu que l'espace public nous appartient, qu'on se sent chez nous, non pas sur notre balcon, notre salon, mais que le chez-soi va au-delà de tout ça, sur la place de village. Vous savez, quand vous organisez un événement avec 500-600 personnes, une fête, et que vous travaillez sur cette place de village, ça devient un peu chez vous, parce que du coup, vous savez, les sorties, les entrées, ou les prises électriques, les trucs. Donc, pour reprendre possession de l'espace public, oblige en fait à pallier s'il y a des situations en fait de problématiques. Donc du coup, ce qu'on a fait dans la vallée de la Roya, c'est qu'on a hébergé beaucoup, on a transporté beaucoup aussi, on a soigné, et on n'a pas soigné des migrants, quoi. C'est pas ça. C'est, on a soigné des gens qui étaient chez nous, non pas parce qu'on était content qu'ils soient là, pas du tout, hein, c'est pas ça, on était tranquille avant qu'ils viennent, hein, vraiment. C'est juste qu'on a un devoir, en fait. C'est un peu comme les Corses. Les Corses, à un moment, la Corée se dit, bah ok, on le prend, le bateau, il y a 2-3 mois, quand l'Italie voulait le refouler. On a dit, ouais, c'est un bug médiatique, etc. En fait, la Corse, c'est une île. C'est une île, ils sont entourés par la Méditerranée, ils la connaissent. Ils l'aiment et ils en ont peur aussi. Donc, c'est-à-dire que quand il y a un bateau qui a sauvé des gens et qui arrive, la question migratoire pro ou anti-migrant, machin, elle passe après, en fait, la question du sauvetage de ce bateau, en fait. Il y a des valeurs, les propres valeurs, en fait, d'identité de territoire qui prévalent avec des dynamiques, des réflexions politiques sur oui, non, quoi, comment. Voilà. Dans la Baie de la Roya, on a accueilli par obligation d'accueillir. Et tout à l'heure, tu disais, bon, l'éducation que j'ai eue, mes parents étaient, ma mère était assistante maternelle, elle travaillait dans la protection de l'enfance. Donc j'étais éduqué avec ça, voilà, partager ma chambre, mes jouets, mes repas pas trop, parce que j'aime pas partager mes repas. Donc voilà, du coup, ces gamins qui étaient à 26 000, je les ai mis dans ma bagnole, non pas parce que je suis un super héros, machin, truc, c'est juste que ma mère, si elle sait que je laisse des gamins en bord de route, elle me fracasse. L'important, c'est ça, c'est d'avoir plus peur de sa mère ou de l'éducation qu'on a eue que d'avoir peur d'un juge. Je pense que c'est ça.
Maintenant, les questions avec le public. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez les poser trois par trois. On prend trois questions adressées à un intervenant et puis on a combien de temps pour... Ça va, hein ? On n'est pas du tout... J'étais tellement stressée avec le temps que finalement, on a vraiment du temps pour les questions au public, tant mieux. Il y a un micro qui va circuler, je pense. Pour les questions au public ?
Non.
Non ? Non. Alors,
il faut qu'ils viennent devant. Bonjour.
Ah, là. C'est le micro public ?
C'est le micro public. Salut ou pas ?
Oui, bonjour. Je vais revenir sur les passoires énergétiques, parce que c'est vrai que le froid, c'est très inconfortable, mais la chaleur, les gens, ils meurent. Hein. Donc, avec les crises de chaleur qu'on a eues ces dernières années, on a carrément des gens qui meurent par centaines. Donc la chaleur, ça va presque encore pire que le froid. Si la seule solution, c'est de mettre des climatiseurs partout, on se retrouve carrément en contradiction totale. Donc cette histoire de passage, de concevoir des maisons qui ne soient pas des maisons énergétiques, c'est fondamental par rapport au froid, mais aussi par rapport au chaud. Et pour l'instant, on a dit qu'on mette des climatiseurs dans les maisons retraites. Oui, c'est un vis-à-vis provisoire. Pas du tout une solution. Peut-être une autre question sur le même
Monsieur le maire, comment avez-vous réussi ? Il y a beaucoup de gens qui viennent vraiment à nos réunions parce que c'est passionnant, l'éducation populaire. Et comment avez-vous fait pour que vraiment des gens viennent et souvent ?
Du coup, les passoires, les climatiseurs et puis les réunions.
C'était pour Monsieur le maire. En fait, je me posais la question, vous n'avez pas trop évidemment abordé le sujet de la santé. Et c'était pour savoir si vous aviez mis en place, en tout cas à développer, les maisons de santé pluriprofessionnelles qui étaient vraiment, a priori, très intéressantes à la fois pour les praticiens et à la fois pour la prise en charge des patients, donc sur le côté bien-être.
Comment j'ai fait pour faire venir les gens ? En fait, on est... Il faut que tout le monde soit au courant. Enfin, dans ma ville, j'ai aussi mis en place dans le personnel communal les approches transversales. C'est-à-dire, parce que le contact avec une personne, ça peut être l'animateur de l'université populaire, mais ça peut être l'agent d'accueil d'une maison de quartier, Ça peut être l'éducateur sportif qui va dans une école, qui rencontre des parents d'élèves. Ça peut être... Et donc, en fait, il faut que toutes ces personnes soient bien au courant de ce qu'on fait dans la ville. Et donc, mettre en relation après la personne avec la bonne, le bon service derrière. Après, les gens les plus en difficulté chez moi, c'est vrai qu'ils ne viennent pas forcément aux conférences qui sont faites derrière, parce que c'est un mode qui ne s'adresse pas forcément à eux. Enfin, quand je dis pas forcément, c'est qu'ils n'ont pas l'habitude de venir à ce genre de conférences. Par contre, par exemple, les gens qu'on voit sur la fabrique de l'autonomie, qui peuvent faire leurs produits cosmétiques ou d'entretien, sont des gens qui ne vont pas forcément aux conférences, mais là, qui sont très acteurs de leur vie. Et quand ils sont à ce moment-là, les animateurs de l'université populaire, bah, leur parlent et disent des choses. On a aussi, par exemple, des écrivains publics dans cette même université populaire, et les écrivains publics font un gros rôle social et de mise en relation de ces personnes-là. Donc, en fait, c'est vraiment quelque chose de très, très transversal, un maillage, en fait, du terrain pour qu'on soit cohérent dans notre action. Mais ça passe aussi par les spectacles. Par exemple, on a toute une programmation culturelle où il y a 35 spectacles à l'année, avec une carte culture qui permet aux gens de venir voir des spectacles pas chers, et ou pas du tout d'ailleurs, et en fait la culture, la manière dont on le fait, aborde aussi tous les problèmes sociétaux à travers les spectacles qu'on fait venir. Il n'y a pas Bigard par exemple qui vient dans la programmation culturelle, parce que c'est inintéressant, mais c'est des spectacles impliqués, ce qui fait que là aussi ça éveille les personnes. Voilà comment on fait en fait pour faire venir les gens. Ils ne viennent pas à une réunion, ils viennent dans plein de choses, dans plein de champs différents. Et alors, la politique participative, elle est en place depuis 73 à Grande-Synthe, 1973, donc c'est une vieille habitude. Donc à chaque fois, on construit les projets avec les habitants et ils sont pris en compte. Sur la santé, alors on a un centre de santé sur la ville, qui est un centre de santé dont l'idée s'est inspirée des centres de santé communautaire du Québec dans les années 70. Donc c'est de la prévention en matière santé. On n'a pas de médecin dans cette structure, il y a juste la médecine du travail, la médecine scolaire, qui ont des locaux dans le lieu, mais sinon ce sont des diététiciennes qui travaillent sur l'équilibre alimentaire, c'est des gens qui se battent contre les addictions, voilà, c'est vraiment de la prévention santé, et le but c'est de faire en sorte que les gens prennent en main leur santé, et voilà, les bons gestes, les éduquer dessus. Donc, soit 1976, ça commence à faire du temps, et c'est eux qui portent, par exemple, on est en train de faire, on a découpé les 250 mèches de cheveux à la population pour faire une étude sur les perturbateurs endocriniens, c'est eux qui portent le sujet, et qui va porter aussi toutes les actions pour limiter les perturbateurs endocriniens. Voilà, donc on accompagne les populations derrière. Voilà. Sur la santé, ouais. Oui, c'est à peu près tout. Les passoires.
Oui, en deux mots, je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. C'est un sujet qui est émergent, qui existe déjà, mais le fait d'avoir trop chaud chez soi, c'est une partie de la précarité énergétique. Quand on pose la question aux personnes dans les enquêtes, il y a à peu près un quart des personnes qui disent avoir froid, qui disent aussi j'ai trop froid et trop chaud alternativement. Donc c'est un problème qui quantitativement est moindre, hein, 4 fois moindre que le fait d'avoir froid, mais c'est un problème quand même qui est important et qui est en augmentation pour 2 facteurs évidemment. La montée du nombre d'épisodes caniculaires qu'on va avoir, qu'on a déjà mais qui vont se multiplier, et le vieillissement de la population. Parce qu'évidemment, les canicules, on n'est pas tous égaux face aux canicules, et les personnes seules et vieillissantes en mauvaise santé sont beaucoup plus exposées à ce type de phénomène. Et donc la solution, vous l'avez dit, climatisation, c'est un pis-aller, qui peut être nécessaire parfois parce que ça sauve aussi des vies, mais la vraie solution, c'est la rénovation énergétique des bâtiments, parce que c'est un rempart contre le froid et contre le chaud.
Juste pour compléter, le temps que le micro arrive, non mais vas-y. Ça c'est vrai, je suis complètement d'accord avec la réhabilitation énergétique, et puis après les politiques publiques, remettre la nature en ville, c'est lutter contre les îlots de chaleur, et donc c'est faire baisser la température dans les logements.
Moi j'avais une question M. Bauvert. La question c'était, on sait que c'est les personnes les plus précaires et les plus pauvres qui sont les premiers touchés par les effets du changement climatique. Et je pense que par ailleurs, on ne gagnera pas ce combat-là contre le changement climatique si on n'arrive pas à mobiliser largement et à mobiliser aussi ces groupes de personnes. Et ma question, c'est à la Fondation Abbé Pierre, donc si premièrement vous répondez à cette précarité énergétique, est-ce qu'il y a une réflexion plus globale pour comment, en fait, à travers cette manière dont on va toucher et répondre à un problème, on arrive par ailleurs à les mobiliser sur d'autres choses de plus systémiques autour du effet sur le réchauffement climatique et sur la construction d'une mobilisation peut-être plus large où il serait inclus dedans. Merci.
Moi j'ai une question pour Cédric et Roux, je voulais savoir, parce que vous avez dit qu'à la base vous n'étiez pas forcément des militants, que ce soit de la cause migratoire ou climatique, et du coup, en fait, qu'est-ce que ça a amené, le fait qu'il se passe ça, à la fois ben, chez vous, chez les néo-ruraux, mais aussi chez les personnes qui vivent là depuis des décennies. Comment ça a amené à autre chose, parce que j'imagine que ça a forcément amené à autre chose quand même, et ça a changé le territoire.
Une autre question?
Ben bonjour, c'est pour le maire de l'ANSEP. Est-ce que vous êtes, quand vous avez été élu la première fois, est-ce que vous avez un programme qui laissait entendre que vous allez faire tout ce que vous avez fait, ou bien vous êtes avancé masqué? Parce qu'ici, avec un programme comme vous faites, on a 3% du droit, quoi, à peu près. Alors, et est-ce que vous faites un stage de formation de futur maire?
Oui, alors, qu'est-ce qu'on fait sur la précarité énergétique? La Fondation Epierre, donc grâce à l'argent des donateurs, merci encore, finance beaucoup d'actions, soit directement, soit par des associations qu'on aide, pour venir en aide aux personnes pour qui les dispositifs de droit commun ne suffisent pas, et c'est pas normal. Et donc on vient compenser les manques. Vous savez, il y a beaucoup d'aides, notamment un programme qui s'appelle Habiter Vieux de l'ANA, pour les personnes qui sont en précarité énergétique, qui ont des bas revenus. Mais il y a toujours un reste à charge pour payer les travaux, et pour certaines personnes qui sont au RSA ou qui ont vraiment peu de moyens, mettre 50 euros par mois pour compléter le prix du travaux, ce n'est pas possible. Donc on vient compléter ça, et puis surtout repérer les personnes, les inciter à monter des dossiers, les accompagner, parce que la rénovation énergétique, c'est un chantier à la fois technique, avec des entreprises du bâtiment, des énergéticiens, mais c'est aussi un chantier humain pour accompagner les personnes, faire des travaux chez soi, c'est pas simple, notamment quand on a peu de revenus, quand on a peu de visibilité, quand on est âgé, c'est pas du tout simple d'avoir des ouvriers qui viennent chez vous et à qui il faut faire confiance, parce que c'est cher, donc on peut se dire, est-ce que ça va vraiment marcher, est-ce que vraiment je vais y retrouver financièrement. Quand on fait ça, à ce titre d'ailleurs, le gouvernement l'an dernier dans le projet de loi de finances avait supprimé une aide dans son grand enthousiasme à couper dans les APL, à couper une partie des APL qui servent à financer les travaux de rénovation énergétique. Et donc maintenant, il y a plein de dossiers qui tombent à l'eau parce qu'il n'y a plus ces quelques millions d'euros qui ont été coupés par le gouvernement. Donc c'est vraiment un gros souci. Et ce n'est pas à la Fondation Pierre de venir compenser le désengagement de l'État. On est là pour alerter sur les manques, mais pas les combler, ce serait trop facile. Après, sur comment est-ce qu'on peut faire pour mobiliser les personnes qui sont touchées par la précarité énergétique sur le climat, sur leur propre rénovation aussi. Donc c'est une difficulté que rencontrent tous les mouvements sociaux. Comment est-ce qu'on fait pour mobiliser les premiers concernés, les gens qui sont les plus loin de l'activisme, de la sensibilisation, etc. Il y a plusieurs choses. Tout d'abord, il faut que le droit les aide. Et donc c'est pour ça que je dis que c'est très important de dire aux locataires du parc privé que ce n'est pas normal et ce n'est pas légal qu'ils soient dans des passoires énergétiques. Donc ça, il faut que la loi évolue là-dessus. Il y a la loi de transition énergétique qui avait commencé à le dire, mais le décret qui a été pris a trahi cette ambition. Donc on a attaqué l'État en justice pour avoir un décret qui permette aux locataires du parc privé d'avoir des droits. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans une passoire énergétique, vous avez juste à vous taire et à payer vos factures. Hein. Donc s'ils ont le droit avec eux, ça ne suffit pas, parce que le droit, il faut aussi le saisir, il faut s'en saisir, mais ça permet au moins à des associations comme les nôtres et toutes les associations qu'on finance d'aller voir les personnes pour leur dire « vous pouvez faire un recours, on va vous aider », et après ça peut faire boule de neige et lancer des opérations d'innovation énergétique. Après, pour qu'un mouvement comme Alternativa touche aussi des personnes les plus en précarité, en difficulté, c'est pas simple, hein, et quand on se regarde nous là dans la glace, il y a plein de gens qui manquent, évidemment, on le sait bien. Donc on a pas mal de programmes qui sont difficiles, qui sont laborieux, mais qui sont utiles pour que, alors c'est pas vraiment sur le thème de la précarité énergétique, mais pour que les personnes qui sont à la rue, qui sont dans les centres d'hébergement, prennent la parole, élisent des représentants et viennent ensuite s'adresser aux représentants. On a monté des rencontres avec des sénateurs, des députés et des personnes qui sont à la rue, qui viennent de la rue. Et ça fait changer les mentalités, mais c'est très difficile à monter, mais ça se fait.
Qu'est-ce qui a changé? Bon, juste expliquer comment c'est plein de choses qui ont changé quand même et qui ont évolué dans un sens ou dans un autre. Réponse de merde. En 2016, en fait, ce qui était compliqué et bizarre à la fois, c'est que les contrôles de police, en fait, sont retrouvés entre la Vallée de la Roya et Nice. Donc on n'avait pas de fil directement dans la Vallée de la Roya, on en avait en fait pour aller de Breil-sur-Roya à Nice. Et la Vallée de la Roya était considérée en intégralité comme en étant en Italie. Donc du coup on se retrouvait avec plein de gamins en fait, qui remontaient la Vallée de la Roya à pied, et du coup tout le monde voyait ces jeunes, ces familles, ces jeunes femmes marcher le long de la Roya, et beaucoup de gens m'ont dit, même des gens qui votent Front National m'ont dit, bon Cédric, tu sais, on n'est pas d'accord avec ce que tu fais, enfin, on n'est pas d'accord avec la dynamique politique que tu as, etc. Mais l'accueil des gamins, etc., parce que quand même, les pauvres, ils n'ont rien à faire ici, mais quand même, maintenant qu'ils sont là, il faut faire quelque chose, on ne peut pas les laisser comme ça dans la galère, c'est pas possible. Il y a beaucoup de restos qui m'ont appelé, qui se revendiquent clairement d'extrême droite, qui nous appellent le soir à nous dire, bon, j'ai le gamin, il est arrivé, je lui donne à manger, moi je ne peux pas l'héberger, il ne faut pas venir le prendre, etc., parce que le pauvre gosse, moi je ne peux pas laisser dehors comme ça, c'est pas possible. Donc on voit à un moment, quand la population est en lien direct avec cette problématique, les migrants, et qu'on voit que les migrants, ben, c'est des gens en vrai, quoi, ben, c'est, voilà, il y a un a priori différent. Et ce qu'on remarque, c'est ça, c'est que qu'est-ce que veut faire l'État ? C'est qu'il veut vraiment que donner ce mot déjà générique, les migrants, malgré d'où ils viennent, etc., en fait, on a l'impression que quand on vient en Europe, c'est que les migrants, c'est tout ce qu'il y a autour de l'Europe, quoi, c'est voilà. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que nous, on a trouvé une possibilité, en fait, de faire nos passages, en fait, en voiture entre Breil-sur-Roya et Nice, légalement, en faisant condamner, en fait, les actions de l'État, parce qu'il y avait une entrave à la demande d'asile, et surtout aussi, il y avait du délaissement de mineurs isolés de la part de l'aide sociale en France. Donc on a récupéré la justice, on a attaqué l'État et les départements pour les obliger à les prendre en charge. Alors, du coup, ce qu'ils ont fait, c'est que les flics n'étaient plus entre Breil-sur-Roya et Nice, étaient entre Breil-sur-Roya et Vintimille. Ce qui a donné les conséquences directes, en fait, c'est que les gens se sont cachés, les gens de migration se sont cachés, donc on ne les voyait plus du tout. Et en fait, on les voit, et ils se cachaient pour arriver chez moi, et pour ne pas se faire attraper par la police, être dégagés en Italie. Et à partir du moment où les personnes de la Roya ne les voyaient plus, et qu'ils parlaient en fait, qu'ils entendaient parler en fait juste d'accueil au travers des médias, c'est là où a commencé en fait à ressurgir la peste brune, le Front National, qui a monté une association et qui a tout fait, mis des pancartes dans le village en disant vol, violence, migration. Ça a vraiment vexé les gendarmes, ils ont appelé, ils ont dit comment ça on fait pas notre boulot. Et les gendarmes m'ont dit, il n'y a eu aucun délit de recensé de la part des personnes en migration dans la Vallée de la Roya. Voilà. Ça, c'était clair et net. Mais ça a été utilisé. Et on voit vraiment en fait, que la possibilité du Front National en fait, de mobiliser autour de la peur, c'est en stigmatisant. Et l'État en fait, a envie en fait, de cacher ces gens un maximum ou de les ghettoiser pour pas qu'il y ait d'interaction en fait, entre l'habitant français et cette personne étrangère en migration. Et donc voilà, ce que ça a changé, c'est ça. D'un côté, un avis favorable de la population 2016 quand les personnes en migration étaient là, qu'on les voyait, et un avis défavorable de la part des extrêmes. Et il y en a beaucoup d'extrêmes chez nous, hein, c'est la majorité. En 2018, donc on voit vraiment le changement par rapport à quand les gens ont pris.
C'était vraiment dans mon programme de 2014, comme ça, écrit tel que je vous l'ai présenté tout à l'heure sur l'accès aux droits. Et j'ai fait 53% au premier tour avec 6 listes. Donc c'est possible, on ne fait pas que 3%. Et en fait, personne ne sera contre le fait qu'on ait un programme pour maintenir les gens en bonne santé. Et c'est que du bon sens. Il n'y a pas de formation, j'en fais pas en tout cas. Mais j'estime que je suis en formation permanente. Je lis des choses, je lis des revues alternatives économiques, politiques, Mediapart, enfin des sites alternatifs. D'information, je me déplace beaucoup, aller voir ce qui se fait ailleurs, je m'inspire j'étais tout à l'heure sur une conférence sur une table ronde avec le maire de Grenoble et son action contre la publicité dans la ville, mais aussi son budget participatif, je me suis inspiré de ce qu'il a fait pour le transposer chez moi, et ainsi de suite, et quand vous rassemblez tout ça et que vous revenez à du bon sens simplement, et ben ça vous écrit un programme et vous arrivez, et les habitants adhèrent, parce que qui va être contre tout ça, voilà. Et puis après, c'est des choix qu'il faut affirmer à certains moments, mais les mettre, quand vous êtes cohérent, vous n'avez pas beaucoup de difficultés à les faire passer dans la population.
J'ai eu un lot de questions avec une qui a déjà été prête depuis tout à l'heure, donc je demandais à Madame Diallo si vous vouliez bien nous donner un exemple réalisé chez vous aussi.
Diallo. Je voulais savoir comment vous mobilisez la population sénégalaise. Est-ce que vous allez vers les villages les plus éloignés?
Juste avant de poser, de laisser la réponse, Cédric a fait un film libre, je vous conseille. Film d'utilité publique, allez le voir, vous comprendrez le budget. On a eu l'occasion hier soir d'aller voir ensemble la Revive et c'est fabuleux, il faut vraiment que vous alliez et vous alliez le voir pour avoir les réponses.
Ma question s'adresse à Damien. Est-il possible de se procurer, je suppose que oui, le texte de la charte qui est proposé pour l'accueil des élus, pour qu'on puisse nous-mêmes la venir à nos élus?
J'ai aussi une question pour le ministre par rapport à l'évolution des cultures au Sénégal. Je voulais savoir s'il y avait toujours des cultures destinées à l'Europe, comme la récolte en hiver, le sorgho pour le bétail, parce qu'il y a beaucoup d'alimentation, la viande, les animaux qui servent de viande ensuite dans les bas. Et je voulais savoir si ces cultures-là étaient toujours d'actualité ou s'il y avait une reprise en main justement de la population sur la question de valeur pour reprendre une culture vivrière locale.
Bonjour, c'était sur la question de la rénovation, de penser une rénovation aussi écologique. Parce que c'est vrai, quand on dit de refaire des maisons, les isoler, que ce soit fait avec des isolants écologiques, ici, il y a tout un village qui va présenter ça, avec des matières recyclées ou des boîtes de cellulose. Voilà. Et quand on voit les nouvelles maisons qui sont construites face au nord, dans les lotissements, quand on voit des maisons qui sont construites face au sud, avec des énormes baies vitrées, parce que c'est la mode, et que les gens crèvent de chaud après en été, il y a aussi à penser au nouveau parc des propriétaires, comment on fait et quel matériel.
Alors, pour la première question, sur les exemples concrets, vous parlez d'exemples d'adaptation, de transition. On en a dans plusieurs domaines. Par exemple, dans le domaine de l'agriculture, vous avez une fédération des agriculteurs biologiques. Ils ont renoncé à l'utilisation des pesticides et des produits chimiques pour se reconvertir à l'agriculture biologique. Comme vous avez également une ONG qui s'appelle Indapronat, qui travaille justement dans le sens d'une agriculture saine et durable, donc pas d'utilisation de pesticides, bien entendu. Et dans ce sens-là, ils vont dans énormément de villages dans le pays, ils accompagnent ces producteurs-là. Ils font également des choses pour la récupération des terres salées, puisque c'est un vrai, vrai problème pour l'agriculture. Vous avez énormément de terres salées. Et donc, ils travaillent dans ce sens-là pour la récupération des terres salées et une promotion également de l'agroécologie. Sur la pêche, il y a un exemple que je connais mieux, puisque je travaille sur ces questions-là pour mes recherches. Vous avez à Bangoum, dans le delta du Sahel, dans le centre du Sénégal, des populations qui se sont regroupées à l'initiative d'une association sénégalaise de protection de l'environnement, qui s'appelle l'Océanium, et qui ont justement décidé de protéger leurs ressources halieutiques. Donc ils ont créé ce qu'on appelle une aire marine protégée, qui est communautaire, qui est gérée par les populations locales. Personne n'a le droit d'y pêcher, justement. Les pêcheurs faisaient face, justement, à une exploitation abusive des ressources halieutiques. Et cette terre marine protégée a permis la régulation des pêcheries. Elle permet également de générer aujourd'hui des revenus, puisqu'il y a un campement écotouristique géré toujours par les communautés, et qui permet d'avoir des revenus injectés dans d'autres secteurs. Par rapport à la question sur les cultures locales, malheureusement, c'est toujours d'actualité. Vous avez toujours énormément de cultures qui sont destinées à l'emploi, en Europe ou en tout cas dans les pays du Nord, l'arachide, énormément de cultures d'arachide, les cultures vivrières, vous avez toujours aussi des associations, heureusement, qui se battent à la fois pour récupérer le foncier, puisqu'il y a énormément de multinationales qui s'installent, notamment dans la vallée du fleuve du Sénégal, pour des cultures qui sont destinées à l'Europe. Donc, il y a tout un mouvement qui se bat pour récupérer justement ce foncier-là, qui est souvent accaparé. En même temps, il y a une très forte promotion des cultures vivrières comme le riz, même si le riz n'est pas historiquement une culture, on va dire, endogène, il y a de plus en plus de riz local qui se fait là-bas, et de ce fait, heureusement, ça baisse les importations de riz, qui était très très importante dans les années passées. Thank you.
disponible sur le site internet de la ville de Bourg-Saint. Je ne sais pas s'il n'y est pas déjà, je vais m'en assurer. Une large diffusion, plus haut il y aura de vie, plus on mettra la pression. Vous verrez, c'est bien préparé pour que ça se voit. On a déjà des maires de la République En Marche qui vont nous rejoindre. En fait, c'est important dans les associations d'élus qu'on ait le spectre politique. Donc on a des communistes déjà, des socialistes, des verts, des centristes du pays. Et voilà, alors extrême droite, bien évidemment. Mais c'est important, et si on est quelques centaines de milliers, ça sera vraiment important.
Oui, justement, là, en ce moment, il y a la ville de Dakar qui est en train de mettre en place son plan climat-énergie. Donc, on pourra en parler plus amplement.
Merci.